Nicolas Chéron, bonjour.
Bonjour
Vous
Didier.
êtes stratégiste chez CMC Market. On va parler avec vous, bien sûr, de ces marchés et des perspectives sur ces marchés. Petit bilan après l'été, hein, tout de même. On a vu que le Brexit était effectivement à peut-être conduit à un choc, mais qu'ensuite les investisseurs s'en sont très bien sortis par le haut. Est-ce qu'ils ont totalement oublié les risques qu'il pouvait y avoir sur le marché?
Par rapport au Brexit ou par rapport à d'autres éléments fondamentaux?
Le Brexit et puis ce qui est arrivé, les éléments fondamentaux ensuite, oui.
Alors, le Brexit, on va dire que ça a été effacé en fait par la scène politique anglaise. Theresa May a en fait avancé les échéances pour avril 2017, soit une date finale de Brexit en avril 2019. Donc ça, les marchés l'ont totalement occulté. Ce n'est plus dans le domaine du court terme. Donc on va dire que on a passé ce dossier-là. Après, par rapport aux autres échéances, on parle plutôt cette fois d'échéances politiques. D'échéances politiques en Europe, mais surtout aux États-Unis. Et en fait, l'attentisme en vue de ces échéances engendre de l'incertitude, et l'incertitude engendre de l'ennui. Nous avons donc des marchés qui, comme je vous le disais, donc c'est un encéphalogramme plat depuis quelques semaines, quelques mois, beaucoup moins d'opportunités, puisqu'il y a beaucoup moins d'écart de performance. Quels que soient les marchés, ce trimestre par rapport au premier trimestre où on a eu quand même beaucoup plus de volatilité, d'activité.
En même temps, c'est une nouveauté, parce qu'on pourrait dire il y a quelques années, on ne parlait pas d'échéances politiques, on laissait ça de côté, mais aujourd'hui, compte tenu des programmes, compte tenu des déclarations des uns et des autres, les financiers, les investisseurs se disent que ça peut avoir un impact concret.
Eh bien, en fait, les marchés ne sont plus corrélés aux fondamentaux économiques, ne sont plus ou beaucoup moins corrélés aux fondamentaux des entreprises. Les marchés sont un peu plus administrés par les banquiers centraux, donc les officiels, les politiques, et c'est peut-être pour ça qu'on donne plus d'importance justement au calendrier politique, avec quand même un calendrier très chargé sur l'année qui va venir, aux États-Unis, en Italie, en France, en Allemagne. Donc voilà, ça crée de l'attentisme et un manque d'entrain des investisseurs, ce qui est compréhensible.
Alors, les banques centrales, la Réserve fédérale, si on l'a suivi depuis le début de l'année, on voit que le calendrier évolue, qu'effectivement on arrive à la fin de l'année. On voit la Banque du Japon qui vient réagir, la Banque centrale européenne qui réfléchit. Les banques centrales, finalement, drive, entre guillemets, toujours les marchés.
Ah, ce sont des marchés administrés. On est sur le S&P 500, sur des ratios de valorisation des PER de 18. On est sur des plus hauts historiques, alors qu'on a une baisse de la croissance mondiale déjà en place depuis plusieurs trimestres, alors qu'on a une stabilisation de la croissance aux États-Unis, alors qu'on a des résultats d'entreprise qui ont baissé pendant 7 trimestres consécutifs. Donc c'est vraiment parce que les banquiers centraux injectent 150 à 200 milliards par mois que les marchés tiennent, se stabilisent. Alors, dans une moindre volatilité aux États-Unis, avec un peu plus de volatilité en Europe, mais il est clair qu'il y a peu d'actions. Par rapport à la Banque centrale européenne, en fait, elle a mis en place un programme de quantitative easing depuis le premier trimestre 2015, et en ce moment, tous les officiels s'entachent à dire, nous allons attendre pour voir si cela fonctionne. Alors, permettez-moi de douter de cela. Les indices ont baissé, l'inflation ne remonte pas, on a la création d'une certaine bulle d'actifs, que ce soit sur les bourses ou sur l'immobilier. Donc, je vois mal comment on pourrait faire un bilan positif de ce QE européen. Donc, forcément, les officiels bottent en touche et vont peut-être même attendre début 2017 pour agir sur ce fameux programme. Au
On
Japon.
semble arriver à la fin quand même de ce cycle-là, c'est-à-dire d'action des banques centrales, où on arrive à la limite finalement avec ces injections massives,
Oui.
et puis une économie mondiale qui est toujours
Atone.
voilà,
Oui,
atone.
on a eu des injections massives. Alors, on en a eu en Europe, on en a eu aux États-Unis. Le Japon, vous le dites, on a une nouvelle action, mais en fait, le Japon, c'est la 48e action en 20 ans. Hein. On sait très bien que le quantitative easing ne fonctionne pas au Japon, l'inflation est négative, il y a une population vieillissante, il y a aussi un problème démographique de long terme pour le Japon. Alors, on va peut-être avoir une transition, c'est-à-dire qu'avant, on était dans le quantitative easing, les injections monétaires. Là, on a l'impression qu'on va vers du stimulus budgétaire, de la réforme. Voilà, peut-être qu'on va aller sur d'autres thématiques, mais ça revient exactement au même schéma que le précédent. On crée de la dette, on injecte et on croise les doigts très fort.
En même temps, ça a été relevé par certains observateurs, peut-être ceux qui sont négatifs sur les marchés, en disant, regardez, la Banque centrale suisse, la Banque effectivement nationale suisse, qui est premier actionnaire de Facebook. Donc, quand on voit ce genre de phénomène, on se dit, une banque centrale actionnaire d'un titre comme Facebook, ça paraît hallucinant.
Elle est également actionnaire de Valeant Pharmaceutical, une action qui a complètement dégringolé en bourse et qui lui a fait perdre plusieurs millions. On a la Banque du Japon qui détient plus de 2% de l'ensemble des titres du Topix, qui détient, je crois, plus de 50% ou près de 50% des ETF sur le Japon. Donc, c'est-à-dire qu'on a vraiment des marchés qui n'arrivaient plus à monter de par leurs fondamentaux, qui arrivaient au terme d'un cycle haussier qui a quand même duré 8 ans, la dernière crise économique étant en 2008. Il faut quand même rappeler à vos auditeurs que depuis 50 ans, tous les 8 à 10 ans, on a une purge en quelque sorte, hein. On ne peut pas toujours être en cycle haussier. Donc ce serait, j'ai l'impression vraiment que les banquiers centraux empêchent cette purge, mais si vous voulez, plus longtemps on tend la corde, plus le retour de bâton pourrait être violent.
Alors en même temps, on peut être étonné aussi sur certains actifs. Je pense à l'or, par exemple, qui aurait pu avoir une performance dans ce contexte-là, de valeur refuge. Ça n'a pas été le cas. Alors est-ce que c'est lié au dollar? Est-ce que c'est lié à d'autres raisons?
Alors, je pense qu'il y a deux raisons. D'une part, effectivement, vous le dites, il y a le dollar. Et ce qui est très particulier, c'est que l'or est principalement regardé dans la devise américaine. Or, les Américains sont le seul pays qui actuellement est dans un resserrement monétaire. Qui dit hausse des taux potentiels dit soutien du dollar américain. Qui dit hausse du dollar américain dit pression sur l'or. Et puis, parallèlement à ça, il n'y a pas de peur sur les marchés. On a eu début septembre un accès baissier un vendredi. On a eu enfin les indices américains qui corrigeaient de plus de 2%. Ce n'était pas arrivé depuis des mois, mais on n'a pas eu de peur. On a eu une petite hausse du VIX, de Volatility Index, mais pas de dépassement des 20 points sur le VIX, pas de réelle peur. Les investisseurs peut-être étant totalement confiants sur le fait que si déstabilisation des marchés il y a, les banquiers centraux de nouveau mettront la main à la poche. Donc l'or en ce moment est resté sous pression depuis 3 mois et dans un carcan entre 1305$ et 1350$. Et j'attends vraiment de voir dans quel sens on va sortir pour anticiper la suite.
Mot de la fin, l'allocation d'actifs, comment elle évolue? On sent bien que l'investisseur, il est obligé d'aller sur les actions parce que c'est compliqué sur la partie obligataire, mais est-ce que c'est forcément le cas?
Je vous en avais déjà parlé l'année dernière au second trimestre 2015 alors que les marchés européens étaient très hauts. Il ne faut pas oublier que le cash peut être aussi une option. Hein. On n'est pas obligé d'aller sur le marché obligataire qui pourrait connaître des tensions, on n'est pas obligé d'aller sur le marché action qui a un rendement certes mais sur lequel il y a des risques. On peut aussi garder une propension de cash pour pouvoir intervenir le cas échéant si une correction prenait forme.
Merci Nicolas Chéron.
Merci beaucoup.